tirer des clés de ma cellule. Je vois que votre goût pour le persiflage vous redonne un peu d'entrain. Tant mieux, tant mieux. Non, je ne dispose pas, malheureusement, de ces clés. Mais le gardien, qui chaque jour nous porte notre repas, me doit quelques services. Le visage d'Andreas, sans que Mollet pût le voir, se métamorphosa. Eh bien, railla le moine. Vous ne dites plus rien. Qu'attendez-vous de moi ? Souffla l'apothicaire. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère, et la charité n'est charité que sans hypocrisie. Je n'attends rien de vous, mon ami. Si vous me dites que vous n'avez pas l'esprit assez fort pour lutter contre votre accoutumance, alors je m'arrangerai pour que l'on vous fasse porter la jusquiame. Je vous en supplie, murmura Andreas. Et l'on devine combien cette imploration coûtait à son orgueil. Êtes-vous bien sûr de vous ? Demanda Mollet. Jacques, venir à bout de cette accoutumance ne me servirait à rien, car alors ressurgirait le mal qui au départ me fit prendre le loch de Diacode. Et quel est ce mal ? Un mal qui ne se soigne pas. Le maître souverain dut trouver l'explication suffisante, car il n'ajouta pas un mot, et le lendemain, Andreas trouva caché dans son repas des feuilles de jusquiame dont il put tirer le jus. Chapitre 39. Ce fut donc au soir de son cinquième jour de réclusion qu'Andreas Saint-Loup reçut dans la prison du Temple une visite, sinon tout à fait inattendue, au moins singulière. À la lueur jaune des lampes à huile qui brûlaient dans le couloir, l'apothicaire vit arriver cet homme en simarre violette, petit, âgé d'une cinquantaine d'années, sa chevelure grisonnante coiffée vers l'arrière, et qui avait de grosses lèvres et un fort vilain nez. Voyant que l'homme portait une chaîne à son cou, son poing droit fermé dessus, et qu'au bout d'Issel était fixé le sceau royal où Philippe le Bel était représenté sur son trône, portant sceptre et fleurs de lys, Andreas trouva la confirmation à sa prime impression. Celui qui venait d'entrer était bien Guillaume de Nogaret, chancelier et garde du sceau. Nogaret s'arrêta d'abord un instant devant la cellule de Jacques de Mollet. « Bonsoir, Jacques. Je vois que la santé ne vous a pas quitté. » Le Templier, dont la haine pour le chancelier était sans doute et à bon droit la plus grande de tout le pays, ne daigna pas répondre. Assurément, il savait que désormais tout ce qu'il eût pu dire à cet homme n'eût fait qu'aggraver son cas, envenimer les choses, et il s'était promis de ne plus parler à personne qu'aux trois cardinaux de la commission pontificale. « tant mieux !» dit Nogaret tout sourire. « Votre dernière audition aura lieu dans quelques mois, et nous aimerions que vous y paraissiez en pleine forme, afin que, cette fois, vous ne puissiez revenir sur les aveux que vous voudrez bien y faire. Mais nous aurons le loisir d'en reparler. Ce n'est pas vous que je suis venu voir. » Nogaret revint alors sur ses pas et se plaça devant la cellule d'Andreas. « Voici donc cet impudent apothicaire » souffla-t-il, comme si cette vision provoquait déjà chez lui une profonde lassitude. Comme il était encore sous les effets de la jusquiame noire, qui a des vertus enivrantes et soporifiques quand elle est prise en petite quantité, et hallucinatoire quand on en a trop abusé, Andreas éprouva quelque peine à répondre rondement. Pour tout dire, l'apothicaire douta même un moment que Nogaret ne fût pas une illusion. « Maître Saint-Loup, mon cher Maître Saint-Loup !» D'un geste théâtral, le chancelier se prit le menton dans la main gauche, comme pour signifier qu'il était étreint par un immense embarras. « Vous me causez bien du tourment. » Andreas, qui n'avait même pas pris la peine de se lever, ricana. Petit à petit, ses esprits lui revenaient. Je ne savais